Les vieilles chansons, les vieilles chansons.
Qui tourne, en rond, tout, tout, tout. Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie. J'ai évidemment nommé C. Félix qui sévit sur la bande FM 95.5, une radio que vous pouvez évidemment aussi entendre sur le web à l'adresse www.cfélix.ca. .qc.ca, pardon, vous y trouverez toutes sortes de trucs, dont des émissions en podcast. Casse, machin. Bref, la technologie est à notre service pour enfin avoir le bonheur de vous rejoindre où que vous soyez, que ce soit à la maison ou dans l'auto. Vous aurez peut-être connu l'espèce de drôle de voix de votre animateur préféré, évidemment, ou du moins votre animateur préféré durant une émission qui revient une fois aux deux semaines, et j'ai nommé l'émission de chansons et de réflexions, qui est animée par moi-même, Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexions. En effet, les deux organismes ont comme, disons, ligne de service ou moyen d'action, l'idée de faire de l'éducation populaire. C'est quoi ça de l'éducation populaire, là, en quelques mots? C'est l'idée de discuter avec les citoyens, les citoyennes, ou plutôt de donner des conférences, ou encore, bref, de donner du contenu à celles-ci, aux Québécoises et aux Québécois, afin qu'ils puissent prendre conscience de leur situation, qu'elle soit politique, économique, sociale et autres. Et si jamais dans cette situation il y a des formes d'injustice ou qu'ils sont brimés, leurs droits sont brimés, ben ils ont désormais le savoir pour pouvoir changer les choses. Alors c'est un peu le but de l'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les individus se prennent eux-mêmes en main pour faire valoir leurs droits. Et à cette émission, à ce micro, nous avons la prétention d'y contribuer à la mesure de nos moyens. Aujourd'hui, 12 mars, une drôle de journée, il fait chaud, hier il faisait 12, comme un 20-30 degrés de différence, hein. On aime le Québec, on aime le Québec à toutes les saisons, dont les entre-saisons qui nous font vivre des émotions hivernales et printanières dans un même 24 heures. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la Journée internationale de la francophonie, qui revient le 20 mars de chaque année et qui pour nous est évidemment une journée thématique incontournable. Hein? On s'entend, là, la langue française, sa protection, son rayonnement comptent parmi la mission, en fait, c'est le principal objet de la mission des deux organismes. Hein? Alors que d'un côté, la Société nationale veut valoriser la langue française, alors que de l'autre, Droit collectif Québec veut défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois, mais notamment et particulièrement ceux linguistiques. Alors, juste pour faire simple, en passant, pour cette journée internationale, on aura le bonheur d'avoir Daniel Turp, professeur, qui fut professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, en entrevue, pour discuter de cette journée qui a 55 ans. Aujourd'hui, en effet, le 20 mars fait référence au fameux 20 mars 1970 où, à l'occasion d'une conférence de l'Agence de coopération culturelle et technique à Niamey, au Niger, dans le fond, on a profité de cette conférence, de cet événement pour transformer l'agence en organisation internationale de la francophonie, qui compte, hein, on dit souvent le français, tu sais, nous on est juste 7-8 millions là en Amérique du Nord, là. Bref, on est toujours quand même 320 millions à travers le monde, avec la croissance démographique de l'Afrique, qui est le continent qui connaît le plus important développement démographique. Le français sera à nouveau la langue la plus parlée dans le monde au tournant des années 2050, je pense, ou 2075. Fait que bref, on n'a pas à rougir de notre langue belle. Et dans le fond, la francophonie a comme pour mission, plutôt l'Organisation internationale de la francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique à travers le monde, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Elle vient appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, elle permet de développer la coopération économique au service du développement durable. Alors, on aura le bonheur de parler de la langue française. On avait réfléchi, hein, vous savez, avec mon équipe, lorsqu'on prend une journée thématique comme ça, ben, on réfléchit aux différents angles avec lesquels on peut, en guillemets, attaquer la dite problématique. Lorsqu'on parle de langue française, on parle d'un enjeu qui a effectivement plusieurs angles. On parle de la langue au travail, on peut parler de la francisation, par exemple, encore la disponibilité des produits culturels québécois et donc francophones. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler du régime linguistique, ou plutôt des régimes linguistiques canadiens et québécois, c'est-à-dire finalement le cadre législatif et réglementaire qui encadre la dynamique sociolinguistique au Québec et au Canada. Maintenant, trêve de mots bien entamer cette émission. On a le bonheur de vous faire jouer une proposition de notre invité et j'ai nommé la chanson « Toulouse ».
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même, les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Vois ton pavé, oh, ma cité gasconne. Ton trottoir est ventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrait vais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon Païs, ô Toulouse, ô Toulouse.
Ah, Toulouse! Quelle magnifique chanson! On remercie évidemment notre invité d'avoir pensé à cette magnifique pièce. D'ailleurs, je vous parlais de Daniel Terp, une biographie qui est bien trop longue à faire état. Je pense qu'on en aurait pour l'entrevue au complet. Simplement, Daniel Terp est né à Verdun le 30 avril dans les années 50, on va dire ça comme ça, d'accord? On va se garder une petite gêne. Mais ici, les originaires de la région montréalaise, Monsieur Terp est un homme qui a beaucoup voyagé, notamment dans le cadre de ses études. Imaginez-vous donc qu'il y a un Telling Story avec Sherbrooke, puisqu'il y a suivi sa licence en droit de l'Université de Sherbrooke en 1977. Et il me parle toujours de M. Pierre Patnaud, qui est comme son espèce de professeur mythique qui lui disait « The king can't do wrong », entre autres. Daniel a obtenu son... a été membre du barreau du Québec de 1979 à 2020. Il est professeur émérite à la faculté de droit de l'Université de Montréal de 1980 à 2020, mais il l'est toujours, bien qu'à la retraite. Évidemment, il y a eu plusieurs autres mandats comme consultant pour l'affaire l'Agence canadienne de développement international ou encore le ministère des Affaires extérieures du Canada. Mais il a d'abord été avant tout d'abord un professeur. Hein. Il a été professeur invité dans 12 universités, en plus évidemment de l'Université de Montréal. C'est donc un homme qui a beaucoup voyagé grâce à son travail. Il a été élu député du Bloc québécois dans Beauharnois-Salaberry en 1997, a poursuivi sa carrière en politique active sous la bannière du Parti québécois dans Mercier en 2003. Il fut réélu en 2007. Et suite à la fin de cette carrière politique-là, ou du moins sa mise sur pause, parce que semble-t-il qu'il n'a jamais dit son dernier mot, il est devenu président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales en février 2016. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et un peu là, victime du syndrome des TLM, toujours les mêmes. Il est forcé de s'impliquer sur de nombreux conseils d'administration qui se l'arrache. Je pense à l'Association québécoise de droit constitutionnel, au Conseil de la Société québécoise de droit international ou encore au Réseau francophone de droit international. Il est aujourd'hui avec nous à titre de, oui, bien sûr, professeur émérite, mais aussi à titre de président de l'organisme Droit collectif Québec. Monsieur Terp, bonjour.
Bonjour, Étienne Alexis, et merci de me rappeler la mémoire de Pierre Patnaud, le regretté Pierre Patnaud, mon grand professeur de droit constitutionnel, qui disait, par ailleurs, cependant, « The king can do no wrong ».
Ah, no wrong,
Kent! À l'époque, le king, le roi, ne pouvait pas commettre d'erreur. Mais là, il le peut, parce que ça a changé depuis que M. Patnaud nous racontait ça, nous, aux étudiants de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Mais c'est un si beau souvenir, puis... Il nous manquera, M. Patnaud.
Et tant qu'à parler d'une institution archaïque, là, qui, bon, change un peu avec le temps, ça prend du temps, je pense que notre bon roi Charles III n'est plus non plus le protecteur de la foi anglicane. Est-ce que je me trompe?
Il n'est plus le protecteur de la foi. En tout cas, au Canada, on a modifié son titre. Mais au Royaume-Uni, il demeure encore le chef de l'Église anglicane. Puis au Royaume-Uni, il n'y a pas vraiment de séparation formelle entre l'État et les religions, ce qui devrait pourtant être le cas dans une société démocratique qui respecte le principe de la laïcité, comme nous, on a décidé de le faire au Québec. Puis je suis très fier de ce que nous avons fait là pour assurer que le principe de la laïcité s'applique chez nous.
Clairement, puis partez-moi pas, Monsieur Turp, sur l'enjeu de la monarchie et de son éventuelle abolition. On en aurait des bonnes raisons, ne serait-ce qu'en pensant, et je vous rappelle, mesdames et messieurs, là, c'est quand même assez fascinant, là, aucun Québécois, Québécoise, aucune Canadienne ou aucun Canadien ne peut devenir chef de l'État du Canada. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui désigne ce dernier en le mettant dans le ventre de la reine-mère et donc le fondé de pouvoir au Canada, il ne relève pas de la loi des hommes, de la démocratie, il relève du pouvoir divin. Ça vous donne une idée à quel point ce pays a besoin de profondes réformes démocratiques. Maintenant, on sait ça.
Il a besoin, Alexis, d'une république. Et d'ailleurs, notre coalition pour l'abolition de la monarchie au Québec a tenu une belle journée d'études il y a pas très longtemps, après avoir étudié la monarchie et son histoire, puis pourquoi les Québécois n'en veulent pas. Ben, on a commencé à examiner l'alternative qui est la république, puis comment faire émerger une république au Québec, parce que un système républicain, c'est nettement plus démocratique qu'un régime monarchique.
Tout à fait. Puis pour ceux et ceux là, qui disent « Ouais, mais là, ils sont censés parler de langue française, là, ils parlent de monarchie », je veux juste vous dire que la langue française, c'est la loi patrimoniale de la monarchie britannique. Son emblème ou sa maxime, c'est « Mon droit, mon... » C'est quoi donc?
Dieu est mon droit.
Mais en français, mesdames et messieurs, et non pas, c'est pas une traduction dans les armoiries de la monarchie britannique, c'est en français, Dieu est mon droit. Maintenant, on ferme cette parenthèse, si vous voulez bien, M. Turp. Merci énormément d'avoir accepté cette invitation, alors qu'on avait envie de parler de la langue française. En fait, c'était pas juste une envie, c'était un devoir. Dans le fond, je le disais, vous êtes président de Droit Collectif Québec. Vous avez accepté de prendre cet important mandat, peut-être un peu naïvement, hein, qui sait, alors que vous peut-être ne soupçonniez pas l'ampleur du travail que ça allait vous demander. Vous qui en aviez déjà plein les bottines de mandats des plus importants, pourquoi, M. Turp, avez-vous accepté de plonger dans cette aventure de Droit Collectif Québec?
C'est probablement parce que je crois au droit collectif. C'est très controversé, le droit collectif. Il y en a qui, pour des raisons philosophiques ou politiques, ne veulent rien savoir des droits collectifs. Puis tout serait, lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux, des droits individuels. Seuls les individus ont des droits puis qui peuvent opposer aux collectivités, alors que moi, je suis d'avis que les collectivités, ça compte, les nations, les peuples, les minorités, ça compte, et ils ont des droits, ils se sont vus reconnaître des droits, et là, il faut s'assurer que ces droits sont respectés. Et puis le premier d'entre eux, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Et moi, je suis d'avis que lorsqu'on ne respecte pas le droit à l'autodétermination des peuples, c'est difficile même de respecter les droits individuels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans deux grands traités internationaux, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, le premier article porte sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, garanti dans son premier article et commun aux deux traités, un droit collectif, celui du droit à l'autodétermination. Alors, quand on y croit comme ça, puis que quelqu'un comme vous a la bonne idée de créer un organisme qui vise à défendre les droits collectifs, y compris ceux de la nation québécoise, alors je réponds oui.
Ben, en tout cas, on en est bien heureux et chose certaine, vous contribuez de manière très concrète au succès, je pense qu'on peut le dire comme ça, que réussir à obtenir l'organisme. Un classique, M. Top, puis vous savez, là, j'aime les classiques, là. On parle de la journée internationale, la journée thématique. La journée internationale de la francophonie est notamment portée par l'Organisation internationale de la francophonie, qui existe depuis maintenant 55 ans. 55 ans, des fois, c'est une bonne période pour faire un bilan, là, tu sais, en vos mots, puis fonction de ce que vous savez, de votre appréciation toute personnelle. Est-ce que vous pensez que ces organisations, que l'organisation, que la journée a atteint, ne serait-ce qu'en partie, les objectifs qui avaient motivé leur création? Parce que je vous pose la question, l'Organisation internationale de la francophonie, ça n'a pas été jojo là, dans les dernières années. Là. Il y a eu certains scandales, je pense notamment à celui là, de la appartement rénové pour notre Michel-Jean National à Paris. Je pense aussi à un autre secrétaire qui avait fait payer les études de ses enfants par l'organisation. Aujourd'hui, cette organisation est dirigée par une femme qui provient d'un pays, le Rwanda, qui a remplacé le français comme langue officielle européenne par l'anglais. On s'en va où avec ça, l'Organisation internationale de la francophonie et de sa journée? Est-ce que la langue française est bien servie par celle-ci?
Ben, je commencerai par vous dire que l'Organisation internationale de la francophonie et la journée là, du 20 mars, qu'on célèbre maintenant chaque année, ont leur raison d'être. C'est très important pour les États de la communauté francophone mondiale de se retrouver, de se rassembler dans les diverses instances, dans les sommets dont on entend parler là tous les deux ans. Donc ça, c'est essentiel. Puis d'ailleurs, vous savez que le Québec s'est battu pour devenir une partie prenante. Puis à l'époque, dans les années, fin des années 60, des années 70, il a dû se battre contre Pierre-Éliott Trudeau, là, le père de l'autre, là. Et parce qu'il ne voulait pas que vraiment le Québec ait un statut au sein de cette francophonie, mais avec l'aide de la France, le Québec a obtenu un statut de gouvernement participant, disait la charte de l'Agence de coopération culturelle et technique à l'époque, et maintenant la charte de la francophonie. Il s'est battu, a eu le soutien de la France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Québec est même vu comme un membre à part entière de la francophonie, puis à part de sa propre voix dans ses réunions. Puis il y a eu des sommets à Québec, il y a eu des ententes qui ont été conclues avec le Canada qui assurent une certaine stabilité à la représentation du Québec au sein de la francophonie. Mais comme vous le dites, le bilan est probablement très mitigé lorsqu'il s'agit de la francophonie et notamment de la défense de la langue française, parce qu'on voit qu'il y a des pays, notamment des pays africains, qui renoncent au français comme langue nationale ou officielle, comme le Rwanda, comme vous le dites, puis alors que pourtant l'Afrique devient le bassin le plus important francophone dans le monde. Puis, oui, effectivement, il y a eu quelques scandales, il y a eu des gens qui ont abusé de leur pouvoir, mais il faut pas renoncer à l'ambition de faire de cette organisation une organisation qui va vraiment promouvoir la langue française, la diversité linguistique. Puis les Québécois ont joué un rôle majeur au sein de cette institution, puis ils sont appelés et devraient vouloir continuer de jouer un tel rôle.
Très intéressant. Bref, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, bien que on doit changer un peu l'eau parce que là. Bon.
Il faut réchauffer ça. Là.
D'ailleurs, on va aller se réchauffer le cœur, si vous le voulez bien, avec une pause musicale qui sonnera à la voix de Diane Dufresne. Encore une fois, une demande spéciale de notre invité. Et j'ai nommé la chanson « Hymne à la beauté du monde ».
Ne tu mens pas la beauté du monde. Ne tu mens pas beauté du monde. Na 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 du du va 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 vi vi va va vi vi va va vi. Ne tu mens pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer son doux. Ne tu mens pas la beauté du monde. Ne tu mens pas le chant des oiseaux. Ne tu mens pas le bleu du jour. Ne tu mens pas la beauté du monde. Ne tu mens pas la beauté du monde. C'est maintenant qu'il se joue.
Quelle belle chanson, Monsieur Toll. Je vous remercie de nous avoir fait ce cadeau, franchement.
C'est un peu pour célébrer Diane Dufresne, là, qui vient d'avoir 80 ans et pour laquelle il y avait une magnifique exposition là, à Montréal que j'ai vue.
Étais-tu sur la fameuse carte de métro, hein, Diane, ou non? Je pense que non.
Je ne crois pas. Mais elle mériterait pourtant de l'être.
Je ne suis pas sûr que j'aurais donné la note de passage pour ce travail.
Et c'est les paroles et la musique de Luc Plamondon aussi.
Ben oui.
C'est une de la beauté. C'est un de nos grands artistes québécois qui nous fait honneur dans le monde, notamment avec Starmania, mais aussi avec l'hymne à la beauté du monde et beaucoup d'autres belles chansons.
Tout à fait. Juste avant la pause musicale, la pause publicitaire, parce qu'on a une petite pause publicitaire quand même, là, M. Tull, j'avais le goût de vous poser notre troisième question, parce qu'on n'arrivera jamais au bout de toutes nos questions, alors qu'elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Après l'Organisation internationale de la francophonie, là, atterrissons au Canada. Depuis la conquête par les armes de l'Empire britannique sur la colonie française en 1560, parce que le deal politique actuel, là, rappelons-nous, là, il provient d'une conquête par les armes, d'une conquête militaire, nécessairement donc d'une victoire d'une nation sur une autre. Là, hein? Il y avait un gagnant, un perdant. Puis cette dynamique-là, elle s'est transposée tout au long des ententes politiques qui ont eu cours depuis. Alors, je ferme la parenthèse. La dynamique sociopolitique est au cœur des débats politiques au cœur des débats politiques au Québec et au Canada. La langue, ou plutôt les langues, ont toujours fait l'objet d'intenses négociations et de compromis. Accepteriez-vous, cher professeur Tull, de dresser un portrait général des régimes linguistiques au Québec et au Canada? De quoi parle-t-on exactement?
Faisons ça dans l'ordre de votre question. Le Québec d'abord, le régime linguistique du Québec, en tout cas actuel, là, c'est d'avoir une charte de la langue française qui déclare le Québec comme langue officielle, puis depuis la loi 96, là, la loi qui a été adoptée par l'actuel gouvernement, une langue officielle et commune. Et donc, cette loi fondamentale maintenant, elle est même... elle a une primauté sur les autres lois, quasi-constitutionnelles, comme on le dit. Elle instaure un régime où vraiment le français doit avoir une primauté dans la vie des institutions, dans le domaine de la justice, du travail, dans le domaine de l'éducation, avec des mesures qui visent, par exemple, à obliger les enfants... de parents qui adoptent le Québec là d'être inscrits à des écoles en langue française. Alors donc c'est un régime qui fait vraiment du français de la seule langue officielle, celle qui devrait être la langue commune, bien qu'on se rend bien compte que c'est très difficile que pour certains et certaines d'accepter que c'est la langue commune du Québec, le français. Alors et une des raisons pour lesquels c'est difficile, c'est qu'il y a cette concurrence là du régime canadien au plan linguistique qui dit et affirme qu'il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Il y a une loi sur les langues officielles qui a été adoptée par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau et qui fait que, par exemple, on dit qu'au Canada, il y a deux langues officielles et les nouveaux Canadiens et les nouvelles Canadiennes arrivent dans un pays, y compris au Québec, où ils se font dire qu'il y a deux langues officielles. Alors, parfois, et souvent, ils choisissent l'anglais. Et,
ce qui n'est pas normal, hein? On les comprend.
On fait français. Mais des fois, les messages sont pas compris ou il y a une résistance au fait que au Québec, notre Assemblée nationale a décidé démocratiquement que le français, c'était la seule langue officielle, puis ça devrait être la langue commune. Alors, c'est pour ça que c'est tellement difficile maintenant de convaincre des gens que le français doit avoir une primauté dans la vie publique et dans les institutions, puis qu'on continue de se battre. C'est un plébiscite pour tous les jours. C'est chercher à faire de la langue française une langue qui continue d'être la langue qu'on aime, qu'on parle, dans laquelle on pense, on lit, on vit. Ici au Québec, dans cette mer nord-américaine où l'anglais domine. D'ailleurs, il domine tellement et puis on veut tellement qu'elle domine que même M. Trump en a fait la langue officielle des États-Unis dans un ordre exécutif récemment.
C'est pas une mauvaise idée, rendre officielles les langues, autrement dit.
Ben écoutez, quand un pays décide qu'il y a une langue officielle, c'est en autant qu'on respecte aussi, comme on le fait au Québec, les langues minoritaires. Je crois que c'est au Québec qu'il y a le régime de protection d'une autre langue, qui est la langue de la minorité nationale, donc la communauté québécoise d'expression anglaise, où elle est mieux le respecter. Malgré toutes les critiques qu'on fait dans la communauté anglophone, je crois qu'on devrait conclure de façon réaliste là, que c'est ici qu'on protège très bien les droits de la minorité anglophone. Moi, je suis fier de ça, mais ça devrait pas nous empêcher de protéger, de promouvoir la langue française comme langue officielle et commune du Québec.
Quelle belle mise en bouche. Merci beaucoup, Monsieur Turp. On doit aller à la pause publicitaire, là. C'est une obligation, mais bon, ça promeut que des entreprises vertueuses. Alors, on est de retour d'ici 90 secondes, chers auditeurs, auditrices. Vous avez seulement le temps d'aller vous chercher un verre d'eau. Alors, à tout de suite.
Il est midi.
31 minutes.
Des mercredis rock pas pire pantoute à CFLX avec Chris Brown, Gérald Bourgault et Patrice Desmarais. Dès 16h, on débute avec le rock et ses racines, suivi des maniaques au progressif de 18 à 19h et OK Boomers de 19 à 22h. Pour ceux qui se couchent tard et qui veulent plus de rock, on termine le tout avec le monde du rock la nuit. CFLX, la vraie radio rock en Estrie.
Le dimanche de 19h à 20h, écoutez l'heure Saint-Michel sur les ondes de CFLX. Les étudiants de ce centre vous présenteront des chroniques variées, touchant l'actualité, le sport, la culture et plus encore. De 19h à 20h, le dimanche, c'est l'heure Saint-Michel. Soyez-y!
Votre magazine artistique et culturel Art d'œuvre est de retour en studio. Les samedis de 13h à 15h et les mardis pour l'édition de semaine de 16h à 18h, découvrons ensemble les activités, événements, artistes, nouveautés, sorties, enjeux, défis qui jalonnent nos vies au quotidien. Art d'œuvre pour du plaisir, en art, papier pantoute, deux fois la semaine avec une épicurienne qui veut surtout piquer votre curiosité.
Papier pantoute. CFLX en Estrie.
95.5 FM. CFLX.
On comprend. Oh, on est-tu de retour?
On est de retour! On est de retour à l'émission.
Ah, super, super, super. Alors, dans le fond, on comprend, professeur Turp, qu'il y a deux régimes, deux visions linguistiques aux objectifs divergents, voire peut-être même contraires, qui se superposent au Canada, avec évidemment le Québec comme épicentre, alors que sur le territoire québécois, on y trouve, dans le fond, on constate un affrontement entre deux régimes distincts, celui de la loi sur les langues officielles, qui a pour base l'individu, hein, c'est le droit des individus à avoir des services dans la langue officielle de leur choix, alors que celui de la Charte de la langue française a plutôt comme base le territoire au Québec, la langue française, la langue officielle, c'est la langue française. Existe-t-il des études qui se sont penchées sur l'efficacité de ces deux modèles distincts, notamment pour contribuer à la vitalité de langues minoritaires? Tu sais, y a-tu un des deux régimes qui vous considérez plus favorable aux langues minoritaires comme le Québec, le français au Canada?
Écoutez, d'abord, je dois vous avouer que je ne connais pas d'études là, sur cette question très, très précise de l'efficacité des régimes. Puis il y en a beaucoup de régimes distincts dans beaucoup de pays. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, c'est important d'avoir des régimes pour protéger les langues nationales, les langues majoritaires sur un territoire. Mais c'est aussi important de protéger les langues minoritaires. Il y a 6700 langues dans le monde à peu près. Il y en a beaucoup qui sont menacées de disparition. Il y en a qui sont disparues, notamment des langues autochtones, ici même au Québec, puis davantage même au Canada puis aux États-Unis. Donc, c'est important de protéger les langues. Si on veut protéger et promouvoir la diversité linguistique, il faut protéger toutes les landes. Il faut les faire cohabiter quand ils sont sur un même territoire, faire un aménagement linguistique comme on a cherché à faire au Québec. Alors, je pense que en y pensant, il faut avoir un régime qui reconnaît à la fois des droits aux individus, des droits linguistiques aux individus, qui puissent réclamer la protection, y compris devant les tribunaux quand l'État ne les protège pas suffisamment ou viole les droits qui sont garantis par des chartes ou une constitution, mais qu'il est tout à fait légitime de penser que sur un territoire donné, même un territoire à l'intérieur d'un État, qu'il y a un régime linguistique qui va aménager les langues et s'assurer que sur un territoire, il y a une langue commune, puis s'assurer qu'elle n'est pas détrônée par des langues minoritaires ou que, tu sais, on mette en danger la langue commune. Puis, il y a des régimes mixtes, un peu comme en Belgique, où il y a vraiment une territorialité où dans certaines villes, par exemple, c'est vraiment le français ou le flamand qui a l'exclusivité, puis les services sont seulement en français ou très grande prédominance en français ou en flamand. Alors, je pense qu'il faut des régimes qui sont peut-être parfois complexes, mais qui, à la fin, sont respectueux à la fois des droits linguistiques des personnes qui appartiennent à la majorité puis de ceux qui celles qui appartiennent à la minorité.
Parlons un peu de DCQ, si vous le voulez bien, professeur Turp.
Avec plaisir.
Ah, super, super. Si les dirigeantes et les dirigeants de l'organisme considèrent qu'il est de la mission de l'organisme de veiller au respect de tous les droits collectifs, je pense par exemple à la liberté de conscience, à laquelle est liée la défense de la laïcité, par exemple, la défense des droits linguistiques reste la priorité des priorités. Quelles actions? Notamment les actions judiciaires mènent actuellement l'organisme et quels sont les objectifs recherchés dans le déploiement de ces actions?
C'est de faire respecter les droits collectifs.
Alors,
oui, parce qu'ils sont constamment pris à mal, les droits collectifs. Vous savez, quand on nomme une gouverneure générale qui ne pas maîtrise la langue française, qui la parle même pas, qui est même pas capable, tu sais, dans une visite dans une région du Québec, là, dans le Bas-Saint-Laurent, s'exprimer en français avec les personnes qu'elle rencontre, là, c'est quand
elle
même...
Elle dit bonjour.
Ouais, mais ça suffit pas. Là,
non.
Une personne qui est supposée de représenter même le roi. Là, même le roi probablement parle mieux français qu'elle. En
tout cas, là, c'est clair.
La reine Elisabeth parlait français. Moi, j'ai rencontré la reine Elisabeth dans un événement du Corps de Noël quand j'étais député du Bloc québécois. Puis on a une belle conversation en français, la reine Elisabeth II et moi-même. Mais hey, c'est quand même grave parce que la gouverneure générale du Canada actuelle ne parle même pas le français. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, une atteinte, tu sais, un droit collectif du Québec d'avoir aussi longtemps qu'elle est dans le Canada, tu sais, un gouverneur général qui s'exprime en français. Alors c'est pour ça que, tu sais, on droit collectif du Québec, on est actuellement devant les tribunaux, puis on n'est pas les seuls parce que nos frères d'Acadie et sœurs d'Acadie eux aussi se sont plaints du fait que la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick parlait pas le français non plus. Alors vous voyez, c'est des actions qui en plus sensibilisent la population à ces injustices qui sont commises à l'égard des francophones puis au droit linguistique de des nations québécoises et acadiennes là. Tu sais, par exemple, l'autre exemple que vous avez évoqué, c'est cette intervention qu'on fait au droit collectif dans la cause Ortona, là où on remet en cause presque toute la loi sur le français, langue officielle et commune, la projet de loi 87 qui a été adopté parce que on n'est pas content du fait qu'on a des dispositions nouvelles qui visent à faire du français la langue, la législation davantage qu'elle ne l'est maintenant, puis avoir des traductions françaises de jugements rendus par des juges anglophones du Québec qui n'avaient jamais une version française, et puis il y a plein d'autres position sur les cégeps et sur la place du français et de l'anglais dans notre régime collégial. Puis, Il y a des dizaines de contestations judiciaires de cette loi. Et nous, on veut intervenir et on intervient pour dire qu'elle est tout à fait acceptable, acceptée. Non? On a même pris on a été prudent, le gouvernement a été prudent, l'Assemblée nationale a été prudente, elle a même fait appel à la clause de suprématie parlementaire pour tenter d'empêcher les juges d'utiliser la charte canadienne qui nous a été imposée sans notre consentement pour déclarer cette loi inconstitutionnelle. Mais vous voyez, encore là, il y a un exemple où Droit collectif Québec veut promouvoir et protéger des lois qui ont été adoptées au Québec pour s'assurer que le français continue d'être la langue officielle puis devienne vraiment la langue commune. Puis, il y en a plein d'autres initiatives et on va en prendre d'autres. Là-dessus, on n'aura jamais dit notre dernier mot lorsqu'il s'agit de protéger, promouvoir la langue française à Droit collectif Québec.
Je pense qu'un des objectifs, je prends le cas de la Cour suprême du Canada, où on la poursuit, qui est une première dans l'histoire du Québec ou du Canada. Ça, j'ai jamais vu que le plus haut tribunal du Québec fasse l'objet d'une poursuite. C'est que, dans le fond, depuis la création de la loi sur la langue, sur les langues officielles, l'État fédéral n'a jamais été capable de respecter sa propre loi. C'est lui qui s'est voté une loi, là. Personne. Au Québec, il n'y avait personne qui demandait cette loi-là. Lui, il l'a voté, l'État fédéral, incapable de la respecter. Pour moi qui le dis, c'est le commissaire aux langues officielles qui, année après année, dépose des rapports extrêmement critiques qui ne changent rien. Alors, l'idée de poursuivre la Cour suprême, c'est de démontrer qu'il y a, à un moment donné, un prix à payer pour ne pas respecter les droits des francophones. Et je me permettrais de compléter votre important propos, M. Turp, juste l'idée, peut-être que les gens, ils se questionnent, oui, mais là, la loi, la Charte de la langue française est défendue par le procureur général du Québec, puis ils ont raison de penser ça. Mais procureur général du Québec, là, d'abord, il peut pas répondre à tout le monde. Hein. Quand vous avez 15 adversaires qui ont chacun des points de droit sur 20 pages de mémoire, là, c'est pas vrai que le procureur général, à lui seul, peut répondre à l'ensemble de ses arguments de droit. Deuxième chose, à l'heure actuelle, on a un procureur général qui est nommé par un gouvernement très soucieux de la défense des lois québécoises. Or, pour faire simple, tous les gouvernements québécois n'ont pas le même souci quant à l'importance de défendre les lois du Québec, les lois qui défendent les lois des droits collectifs notamment, et la présence de droits collectifs Québec vient suppléer à cet éventuel, disons-le en bon français, slack d'ampoulie quant à la volonté du gouvernement québécois de défendre nos lois. Alors, c'est vraiment un complément que je voulais apporter à vos lumières, Monsieur Turp. Et si vous le voulez bien, on est déjà aux trois quarts de l'émission. On va aller une dernière fois en chanson pour ensuite conclure avec la dernière portion de notre entrevue qui durera 7 à 8 minutes. C'est une pause musicale qui va être un peu plus acérée que les deux premières chansons. Et j'ai parlé d'un classique à cette émission qui est question de langue française. J'ai nommé Mal à ma langue de Loco Locas, tiré de l'album Manifestif.
Parler avec l'accent, une langue riche. Shakespeare.
Peuple à la mer, à la merci des courants, qui n'est pas au courant, dont la langue à volo, on navigue entre deux eaux, dont la culture dérive au large des rives d'un incontinent mercantile.
Quand il s'agit de s'agiter, sache que les locaux locales s'occupent la place. Jacasse avec audace et casse de la glace en dénonçant la menace qui sévit sur ma masse. C'est d'asse, c'est sérieux. Ils sont pernicieux, on croirait au complot tacite de la nation.
Car on connaît cette dégueu de la situation.
Dans la téléphonie multiculturelle de Trudeau,
son rêve était bon.
La voix franco-aphone noie tous les sons du saxon sur saxon.
Tabarnak, son 300 millions.
Pendant qu'on est au Québécois de souche, tire une puche, un autre en gros klaxon, saxon, car notre syntaxe est en voie d'extinction. Miné, contaminé, déterminé par Shakespeare et ses sbires. Y'a pas de fou rire, car j'ai mal à ma langue. J'ai mal à ma langue. À cause de discours, je me dis qu'on toujours jour et nuit, aucune dichotomie, c'est la grande noirceur qui sévise, c'est vite dit, ainsi conçu. Bref, mon pays est loin de la laconie.
Honey!
Bally, c'est comme chercher Charlie. Où est ma langue?
Où est mon esprit?
Où suis-je? L'insidieuse érosion du langage et ses suites me terrifient. Je suis l'homme calcaire en bon calvaire devant les assauts séculaires de nos marques qui me sapent les pieds. Ils me poignent des fois des envies d'hermétisme à l'extrême. Une néo-nipponnerie, une genre
de juifie.
Mais je suis très mal déchu, j'ai le pénis. N'empêche qu'on bouche à bouche, ma langue m'embouche et couche avec le butcher. J'en embrasse large, mais je couche mes mots pour 7 millions de cocus en colonne verbale. Avale mon venin mollusque jusqu'à ce que t'en tires un antidote qui toque, t'attaque
le pour le French universel.
J'ai rien contre j'y remène, même, mais je ramène personne en franglais. C'est pas vrai ou faux, je m'en fous, mon parti est
riche.
Tu n'auras qu'on rit, ma rage contre la machine est une mutinerie contre le mutisme, ce séisme tranquille.
Je me fais très fronter, forcé de fitter dans la foule et de ces poules parolier. Qui met de flanc, bergement à tout moment pour défendre leur langue avant qu'ils agirement exangle le bang comme une sorte de langue noire.
Langue
d'or, qui je te le conseille, on est un peu con et on cède aussi à la tentation. Le parsemé de te tchatch,
local,
du langage des
balasses.
Un petit cool par-ci vite, par le whatever man, we speak like we speak.
Speak, what, war, j'ai la voix blanche de maître trop.
Tu
es au silence, blanche, nègre, c'est nègre, blanc. Nos mots sont les balles à blanc.
Bam,
beaucoup de bruit pour rien, mais le lendemain, je me souviens de rien.
Ah, vas-y, avachi,
silence, on frotte. The French fraud vagissant éternellement le Québec de Liège n'en finit pas de mettre. Ceux qui tracèrent la trachée d'une voix qui n'a pas la portée d'un crash.
Arrache,
je marche pas mes mots, c'est pas la mâche. Peut-être on sache que les locaux locaux sont des coups bros qui causent et qui harangent.
C'est qui leur cause des mots sur le bout de la langue.
Professeur, citoyen, animateur de musique plus et politicien. Je nous accuse au tribunal de la conscience d'avoir immolé le français sur l'autel de l'indifférence. Malgré que le combat soit perdu d'avance, même en France, nous défendons notre patrie contre l'anglo-sphyxie. Tel que le pire, les phrygiens face à l'empire romain. Nous avons pris le mac, il est mystique et opposons à l'Amérique une résistance lyrique. Notre tactique est unique et consiste en la verbalistique. Nous faisons flèche de tout mot, nous arrêtons à mettre en voie des carreaux lexicaux. Les locaux détonnent et proposent entre autres choses le prose qui ose et qui désend qui l'ose. Si texturé soit-il ton texte, doit t'expliquer le contexte de ton
cortex.
Sans sens ne sont les que sensations, les sens sont le sans cesse sans action.
Si texturé soit-il ton texte, doit t'expliquer le contexte de ton
cortex.
Sans sens ne sont les que sensations,
les sens sont le sans cesse sans action.
Boum! C'était les locaux locaux, c'est manifestif, ça décoiffe! Alors, on est déjà dans le dernier segment de l'émission, cher professeur Turp. Il me reste deux questions, là, puis là, je vais résumer là, mon introduction, parce que je veux absolument avoir le temps de vous les poser. En 1993, le Comité des droits de l'homme rendait un jugement qui a fait du bruit, mais pas autant qu'il aurait dû. Je parle de l'affaire Ballantyne, où... Dans le fond, le comité juge que le statut des groupes linguistiques, parce qu'on a beaucoup parlé lors de l'entrevue des langues minoritaires, des langues majoritaires, mais là, de quoi on parle? Ce jugement-là dit, écoutez, si un groupe linguistique est majoritaire ou minoritaire, ce doit l'être non pas en fonction, par exemple, d'un territoire fédéré par un État, je pense, aux États des États-Unis, au département français ou aux provinces canadienne, hein? Mais plutôt à l'échelle du pays. Autrement dit, selon droit international, un francophone au Canada et un groupe fait partie du groupe linguistique minoritaire, qu'il soit à Saskatoon, Calgary ou Montréal, et À l'inverse, un anglophone est considéré comme faisant partie du groupe linguistique majoritaire au Canada, qu'il soit à Toronto, Vancouver ou Québec. Selon vous, professeur Turp, est-ce que l'organisme aurait intérêt à questionner la validité de la loi des langues officielles qui, elle, dans le fond, sépare le Canada en provinces et prend chacune des provinces individuellement pour dire, bon, ben, quel groupe est linguistique minoritaire? Et comme par magie, au Québec, les anglophones, ils sont minoritaires avec tous les droits que ça vient.
Ben, écoutez, revenons à cette curieuse constatation. C'est pas vraiment un jugement, hein. Donc, tu sais, nous, les juristes que nous sommes, on fait de la distinction entre une constatation du Comité des droits de l'homme puis un jugement, par exemple, que de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, a le droit de rendre des jugements qui sont obligatoires puis qui doivent être respectés par les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme, c'est un groupe d'experts qui est conçu en vertu du Pacte sur les droits civils et politiques, un traité de l'ONU là auquel le Canada est parti. Même le Québec s'est déclaré lié par ce pacte en 1976. Puis, tu sais, dans cette constatation curieuse en interprétant le terme minorité dans un article qui crée des droits pour les personnes appartenant à des minorités, on dit « Ah, au Canada, là, finalement, les anglophones, c'est pas une minorité au Québec. » La minorité, c'est la minorité de langue française dans l'ensemble du Canada. Et donc, c'est un peu curieux parce que nous-mêmes, au Québec, on dit qu'il y a une minorité puis on la protège. Puis au Canada, on dit qu'il y a des minorités francophones à l'extérieur du Québec puis des minorités anglophones au Québec. Alors, c'était très surprenant. Puis il y avait une vision un peu différente de ce qu'on a, nous, ici. Mais ça révèle quand même quelque chose, comme vous le dites là. Tu sais, le Canada a décidé dans sa loi des langues officielles, finalement aussi, de conférer des droits linguistiques aux minorités francophones et anglophones dans les services fédéraux surtout. Puis il a choisi presque la symétrie. C'est ça qui n'est pas acceptable, tu sais, qu'on traite sur un pied d'égalité les francophones du Canada puis les anglophones du Québec, puis que, tu sais, on ne tienne pas compte de la fragilité des francophones tant dans le reste du Canada qu'au Québec. Alors, c'est pour ça qu'il y a même à Ottawa, on commence à penser qu'il faut protéger la langue française. On va pas très loin, puis on va bien voir où est-ce que veut aller Mark Carney ou même Poilievre, s'il y en a un des deux qui gagne la prochaine élection. Mais vraiment, là-dessus, je me fais pas trop j'ai pas trop d'espoir parce que c'est du pareil au même, là. T'sais, jamais on veut véritablement protéger les droits des francophones dans l'ensemble du Canada et en particulier au Québec.
Et jamais, jamais le Ottawa cessera de financer à la hauteur de près d'un milliard par année la communauté anglo-québécoise, qui a bien sûr des besoins, on les reconnaît, on les aime. Elle compte parmi les minorités les mieux traitées au monde. Je ne suis pas la mieux traitée au monde, mais parmi, on s'entend, ils ont un système d'éducation du CPE à l'université entièrement en anglais, ils ont un système de santé entièrement anglophone. Donc, bref, une question intéressante à débattre au sein des instances de DCQ. Afin de conclure cette passionnante entrevue, Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, de même que président de droit collectif, vous avez certainement lu un chef-d'œuvre, j'oserais le dire de même, là, Le piège des langues officielles, avec pour auteur Éric Poirier, qui conclut à la fin de son livre, qui en appelle finalement un renouvellement, un renouveau d'une communauté politique réunissant les francophones. Admare ou ski admare, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve, afin de mieux préserver ce trésor culturel de l'humanité, soit le français en Amérique du Nord. Que pensez-vous de cette proposition, Daniel Turp, considérant que le Canada a tout fait pour nous diviser, nous, francophones du Canada, est-ce que c'est réaliste?
Ouais, c'est plus que réaliste. C'est comme un devoir. Il y a un devoir de solidarité des francophones du Québec avec les autres francophones du reste du Canada, quel que soit le statut politique du Québec. Et vous le savez, moi, je suis un grand fervent de l'indépendance du Québec et je ne changerai pas d'idée sitôt. y compris parce que je suis d'avis que la langue française va être mieux protégée, puis elle va pouvoir vraiment devenir commune si on choisit un État, de se doter d'un État souverain indépendant. Mais on a un devoir de solidarité avec les autres francophones du Canada qui sont organisés au sein de cette fédération des communautés francophones et acadiennes. Alors, et moi, je suis favorable à ce que cette solidarité s'exprime par des soutiens du Québec aux autres communautés francophones, par des actions communes, par puis une action visant à assurer que le fait français, non seulement au Canada, mais dans les Amériques et dans le monde, soit un combat perçu comme étant important, légitime, acceptable, au nom même de la diversité linguistique. Alors, moi, je favoriserai toutes les initiatives qui viseront à démontrer que les Québécois francophones veulent être solidaires avec les autres francophones du Canada dans son ensemble. Puis quand on sera indépendant, là, on aura encore plus de moyens pour soutenir les francophones du reste du Canada, puis peut-être qu'ils se rendront compte que ce serait un avantage pour les francophones du Canada que le Québec soit un État souverain indépendant.
Ben, personnellement, je serais plutôt d'avis qu'il serait davantage mieux servi en étant la diaspora d'un État souverain que les résidus d'une nationalité, le Canadien français, qui, disons, a perdu un peu de pique. Hein? Les gens s'intéressent beaucoup moins à cette ethnie ou cette identité nationale qu'auparavant. Puis peut-être que, juste pour conclure sur cette question, en fait, la loi sur les langues officielles a été un piège. Par contre, dans les dernières années, les tribunaux ont reconnu l'asymétrie. Là, c'est pas vrai qu'on peut comparer que c'est un effet miroir, la minorité anglophone au Québec avec la minorité francophone dans le reste du Canada. Alors, il y a peut-être là... Une opportunité, c'est-à-dire de mettre fin à ce qui nous divisait ou, comment dire, d'élargir cette brèche qu'a créé les tribunaux sur l'application mur à mur de la loi sur les langues officielles.
Oui, je crois qu'en fait, il y a des développements modestes là, pour se rendre compte que la symétrie ne produit pas les résultats voulus lorsqu'il s'agit de protéger la langue française au Canada. Alors donc, je pense qu'on doit voir ça de façon positive, mais ça suffit pas. Puis c'est aléatoire. Peut-être qu'il y a un gouvernement, puis il y a d'autres juges, la Cour suprême un jour, qui vont changer d'idée là. Et on l'a vu par le passé. Alors donc vraiment, c'est des luttes constantes là. C'est une lutte tellement légitime, celle de vouloir protéger la langue française, puis s'assurer que notre culture québécoise s'exprime en français, comme la culture acadienne, la culture de langue française des autres personnes qui ont cette langue en partage au Canada puis ailleurs dans le monde. Alors, il faut vraiment continuer ce combat. Puis, à Droit Collectif Québec, là, puis dans beaucoup d'autres organisations, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va continuer à faire.
Et on s'arrêtera pas. Mesdames et messieurs, vous étiez à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions qui, en ce mercredi 12 mars, soulignait la Journée internationale de la francophonie qui aura lieu jeudi prochain. Le 20 mars, on avait le bonheur de recevoir à l'émission le professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de Droit Collectif Québec, M. Daniel Turp. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Avec plaisir et salutations à tous vos auditeurs et auditrices en cette fin d'hiver. Le printemps approche.
Le printemps approche quelques jours seulement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Petit clin d'œil, la prochaine émission portera cette fois sur la Semaine nationale des travailleuses et des travailleurs sociaux qui, évidemment, abattent un boulot incroyable permettant à des gens qui sont dans le besoin de s'en sortir. D'ici là, prenez soin de vous, j'ai très hâte de vous retrouver et à nouveau, merci beaucoup d'être des nôtres. Au plaisir.
58 minutes.
Savez-vous qui aide nos enfants?
Il y a deux trucs qui jouent.
Il est midi.
59 minutes.
Savez-vous qui aide nos enfants dans les écoles au quotidien? Les acheteuses et acheteurs. Ces personnes effectuent l'achat des marchandises requises par le centre de service scolaire. Grâce à ces personnes, les élèves et le personnel peuvent obtenir du matériel favorisant les apprentissages et le bon fonctionnement des établissements scolaires. Ceci est un message du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS et de la Fédération du personnel de soutien scolaire affilié à la CSQ.
Le 18 mars, au cœur de la Journée québécoise de la francophonie canadienne, CFLX vous invite à un spectacle de Jolie et de Céleste Lévy, de concert avec le Centre de la francophonie des Amériques et le Centre culturel Pierre Gobeil. Découvrons ce duo d'artistes franco-ontariens. Le 18 mars, profitons de ce tour de chant